C'est le 15h10, ici à Paris, l'heure de retrouver le journal d'Haïti et des Amériques. Et c'est avec vous, Anne Verdaguer. Et bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui, bien sûr, sur le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. On l'a entendu dans le journal, un débat qualifié de pugilat, de cacophonie, de chaos. Marie Normand nous dira ce que la presse américaine en a pensé ce matin et on reviendra avec notre invité Julien Toureille, chercheur à l'Université de Québec, sur la stratégie des deux candidats, si l'on peut parler de stratégie ou en tout cas sur la posture de chacun. On vous parlera également de la situation au Venezuela où les manifestations se multiplient un peu partout pour réclamer des services publics de base tels que du gaz ou de l'électricité. Et puis Sophie Torlotin nous parlera de ce documentaire sur Billie Holiday intitulé sobrement Billie.
I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man?
Voilà, voulez-vous vous taire en termes plus polis, demande de Joe Biden à Donald Trump. C'est l'une des invectives hier soir entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Bonjour Julien Toureille.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à la chaire d'Endurant à l'Université de Québec de Montréal. Vous êtes en direct avec nous par téléphone. On va revenir avec vous sur ce débat hier soir, ponctué donc d'invectives, d'interruptions. On a l'impression que la forme a largement pris le pas sur le fond, Julien Toureille.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qui choque aujourd'hui bien des observateurs aux États-Unis, la presse américaine en particulier, et probablement des électeurs qui auront ressenti hier soir un malaise face au spectacle auquel ils ont assisté, même si la tournure était quand même assez prévisible du fait notamment de la personnalité du président Donald Trump et de la stratégie qu'il avait manifestement décidé de mettre en œuvre, qui consistait essentiellement à s'imposer à tort et à travers au cours de la discussion, à créer ce chaos-là dans l'espoir d'une part de déstabiliser son adversaire Joe Biden et de le faire passer pour ce fameux Sleepy Joe, ce Joe l'endormi comme il aime à le qualifier, et aussi pour masquer l'incapacité du président à proposer une politique pour un second mandat. Et ça, on l'avait très clairement vu un petit peu plus tôt cet été dans le cadre d'une entrevue avec l'animateur de Fox News, Sean Hannity, qui avait été quand même assez conciliant à l'endroit du président Trump, mais celui-ci avait été incapable d'exposer un programme politique et donc il fallait qu'il s'appuie sur cette stratégie du chaos qui est sa marque de commerce au final.
Julien Toureille, on va revenir sur la stratégie des deux candidats, mais on va s'arrêter encore un peu sur la forme de ce débat avec vous, Marie Normand, bonjour.
Bonjour.
Finalement, le fond n'a été qu'effleuré, c'est ce que dit la presse américaine ce matin aussi.
Oui, et votre invité le disait à l'instant, ce malaise dans la presse, le Washington Post n'hésite pas à qualifier cette rencontre de pire débat présidentiel de mémoire d'homme, une insulte au public même et un triste exemple de l'état de la démocratie américaine. Le Colorado Spring Gazette pense que ce débat a dû plaire aux fans de catch, même allégorie dans le Wall Street Journal qui écrit néanmoins dans son édito que les catcheurs professionnels sont plus présidentiels que ces deux hommes-là. Nous pensons, ajoute ce journal, que des millions d'Américains ont décroché au bout de 30 minutes et nous aurions fait la même chose si regarder ce débat n'était pas notre gagne-pain.
Julien Toureille, je reviens avec vous. Il y a eu tout de même différents sujets abordés, notamment la gestion du Covid qui a été assez longuement débattue, l'histoire de l'Obamacare et du système de santé. Donald Trump, de son côté, s'est efforcé à dépeindre son rival comme une marionnette de la gauche radicale. Je vous propose de l'écouter.
Your party wants to go socialist. Medicine.
My party is
and
me.
Socialist
right
healthcare.
Now, I am
and they're
going to
dominate
party.
You, Joe. You know that.
Voilà, votre parti veut vous dominer et faire de vous un radical de gauche, dit Donald Trump à Joe Biden. Julien Toureille, c'est toujours son principal argument face à son adversaire.
Oui, c'est l'argument que Donald Trump et les Républicains déploient depuis des mois maintenant, même avant que Joe Biden remporte formellement l'investiture du Parti démocrate. C'est un argument un peu éculé et qui ne semble pas avoir l'effet manifestement escompté, puisque si on regarde par exemple les intentions de vote depuis des mois, elles sont relativement stables. Et Joe Biden hier a quand même été dans l'ensemble plutôt à l'aise pour détourner, pour dévier cette attaque-là du président Donald Trump en se dissociant notamment de l'un des programmes mis en avant par l'aile gauche du parti, ce fameux Green New Deal, en expliquant qu'il n'y était pas favorable, qu'il était favorable à un plan pro-environnement, pro-économie, établi par Joe Biden, et il s'est posé finalement comme le chef de file du parti démocrate. Alors peut-être cela aura-t-il fâché certains plus à gauche au sein du parti démocrate, mais encore une fois, l'objectif était de ne pas apparaître comme cette marionnette socialiste, enfin du camp socialiste au sein du parti, et à cet égard-là, Joe Biden s'en est plutôt bien sorti, peut-on dire.
Et Julien Tourret, il semble quand même que Joe Biden n'ait pas vraiment réussi à présenter sa vision de la politique et son programme démocrate.
Oui, mais ça, il devait s'y attendre. Hein. Encore une fois, avec la personnalité de Donald Trump, le candidat Joe Biden savait très bien qu'on n'allait pas être dans un débat policé où on allait discuter de mesures politiques. Il a quand même été en mesure d'avancer certains éléments intéressants, notamment sa volonté d'élargir l'Obamacare. Sur la question de la relance économique, il aurait pu être un petit peu plus détaillé, mais il a quand même réussi à faire le lien avec la nécessité de lutter contre les changements climatiques pour créer des emplois verts et investir dans une transition plus écologique, si on peut dire. Mais encore une fois, on n'était pas dans cette dynamique-là. Joe Biden le savait très bien. Il était assez bien préparé pour ne pas être déstabilisé par les attaques, et finalement, il a rempli sa mission. Ne pas être déstabilisé et ne pas apparaître comme trop mou, ce qui l'a peut-être poussé des fois à être un peu dans le chaos ou à jouer le jeu du chaos, mais il fallait manifestement qu'il fasse minimalement pour ne pas encore apparaître comme passif face à un candidat comme Donald Trump.
Marie-Normand, je me retourne vers vous. La presse qui parle d'erreurs stratégiques de la part de Donald Trump ce matin.
Oui, le Wall Street Journal, pour revenir à ce quotidien, explique qu'en voulant paraître plus fort que Joe Biden, Donald Trump a beaucoup trop interrompu le vice-président et ne lui a finalement pas laissé le temps de faire des gaffes. Joe Biden est aussi critiqué, un candidat qui dit vouloir rassembler mais qui a traité Trump de raciste, de clown et lui a même demandé de la fermer. Alors oui, Biden a bien réussi à paraître cohérent pendant 90 minutes, mais les attentes étaient faibles, c'est ce que pense ce quotidien, car Trump lui avait fait la faveur de remettre en question ses capacités mentales. Et pour le Washington Post, Biden a dépassé les attentes sans briller pour autant. Bref, personne n'a gagné dans ce fiasco, même pas le modérateur, le journaliste Chris Wallace, qui d'après The Atlantic, par exemple, n'a pas suffisamment fait régner l'ordre. Même s'il n'était peut-être pas techniquement possible de couper les micros, il y a toujours des moyens de montrer qu'on est le chef, et il ne l'a pas fait. Pour ce média, il est difficile d'imaginer l'impact des deux autres débats, s'ils sont comme celui-ci, si ce n'est peut-être la montée des tensions dans un pays déjà sur les nerfs.
Julien Tourret, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'effectivement, personne n'a gagné lors de ce débat et que c'est même un échec de la part des deux candidats s'ils voulaient convaincre les indécis ?
Mais clairement, Donald Trump est celui qui perd ce débat si on considère qu'il est dans une situation délicate. Il est le président sortant, il tire de l'arrière dans la plupart des sondages, et quand même l'un de ses objectifs, c'est peut-être aujourd'hui de convaincre des électeurs démocrates qui n'avaient pas voté pour Hillary Clinton en 2016, mais qui l'avaient choisi à lui, de refaire la même chose cette année. Et je ne suis pas certain qu'avec ce qu'on a vu hier soir de la part du président Trump, ces électeurs-là vont revenir vers lui. Il ne faut pas oublier que les derniers sondages, par exemple en Pennsylvanie, le donnent très nettement derrière Joe Biden. Quant à Joe Biden, je pense qu'il ne faut pas être trop dur dans le jugement qu'on porte de sa performance. D'une part, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte, l'importance de l'élection. Et Joe Biden a quand même réussi à démontrer que sur la scène hier soir, il y avait une personne qui est digne de la fonction présidentielle, et ce n'est pas celle qui l'occupe actuellement. Et par ailleurs, face encore une fois à la personnalité de Donald Trump, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les deux candidats rentrent dans des débats feutrés, dans des débats très compliqués de politique publique. Et à cet égard-là, Biden n'a pas perdu le débat, ce qui fait finalement qu'il a gagné. Quant à la performance de Chris Wallace, je pense que personne n'aurait aimé être à sa place hier. Et on envisage manifestement assez sérieusement chez les organisateurs des deux prochains débats de donner les moyens aux futurs modérateurs de couper les micros des candidats. On se pose même la question finalement s'il devrait y avoir d'autres candidats, parce que au final, si ça se passe comme hier, la société américaine et la démocratie américaine sont finalement les grandes perdantes.
Julien Touré, une dernière question. Donald Trump est revenu sur la question de la fraude lors de ce vote. Fraude qui, on le sait, n'a pour l'instant, enfin, personne ne dit qu'elle est avérée du tout. Est-ce que cette stratégie de parler de fraude à l'avance est quelque chose qui va marquer cette campagne?
Ça soulève un risque vraiment de chaos au lendemain du scrutin, d'autant plus qu'il est quasi certain maintenant qu'on n'aura pas de résultat définitif le 3 novembre au soir, ni dans la nuit du 3 au 4 novembre. Et bon, alors il essaie de faire une distinction entre le vote par la poste généralisé et les bulletins envoyés pour des motifs sérieux, donc demandés par des électeurs auprès des autorités électorales de chacun des États, mais surtout, et on l'a vu lorsqu'il a refusé de condamner les suprémacistes blancs, il attise finalement la méfiance, il attise les clivages, et on sait quand même que les États-Unis sont une société fort armée, que ces milliers suprémacistes blancs n'hésitent pas à se promener dans les rues avec des armes d'assaut, et les plus pessimistes, en fait, craignent que la situation ne dégénère advenant un résultat serré ou contestable dans les jours qui suivent la prochaine élection.
Merci beaucoup, Julien Touray. Je rappelle que vous êtes chercheur à la chaire d'Endurant à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup, Marie Normand, pour cette revue de presse des Amériques. Et on part au... Marie, on vous retrouve car ce n'est pas fini.
Non, j'avais encore un mot à dire
sur le Venezuela. Marie, le président Nicolas Maduro qui soutient que le pays a perdu 99% de ses entrées de devises étrangères entre 2015 et 2019.
Oui, c'est à lire dans le journal d'État Correo del Orinoco. Selon Nicolas Maduro, la guerre économique brutale menée contre le Venezuela par les États-Unis explique ces chiffres impressionnants. Devant l'Assemblée nationale constituante, le président a présenté mardi un projet de loi anti-embargo, c'est ce qu'explique El Universal, censé permettre à l'État de disposer des capacités institutionnelles et juridiques nécessaires, dit-il, pour faire face aux sanctions américaines.
Merci beaucoup Marie Normand, à très bientôt.
Le journal de l'Outre-mer.
On passe à présent à l'actualité des Outre-mer avec le journal La Première, présenté par Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, un réseau international de prostitution démantelé à l'île de la Désirade.
Oui, les gendarmes ont débarqué hier dans l'île guadeloupéenne, donnant un coup d'accélérateur à cette enquête ouverte pour proxénétisme aggravé. Le principal suspect a été placé en garde à vue. Les détails avec Eric Stimfling de Guadeloupe La Première.
Ouverte discrètement en début d'année, l'enquête pour proxénétisme aggravé s'est soudain accélérée hier matin avec le débarquement sur l'île de la Désirade de plusieurs gendarmes. Pour l'heure, seule une personne a été placée en garde à vue pour 96 heures. Il s'agit d'un Désiradien dont l'identité n'a pas été révélée. En revanche, plusieurs autres habitants de l'île ont également été auditionnés par les enquêteurs, car directement ou indirectement mis en cause au travers des premiers témoignages recueillis. Certains auraient ainsi pu faciliter la venue des prostituées sur l'île. Il s'agissait de jeunes femmes originaires de la République dominicaine. D'autres n'auraient fait que consommer les prestations proposées par ces dernières. Et parmi les personnes entendues, il y a eu Jean-Claude Pioche. L'ancien maire de la Désirade a en effet été interrogé hier matin par les gendarmes. Ces derniers ont notamment essayé de savoir si l'ancien édile et par ailleurs fonctionnaire au sein de la police des frontières était au courant de ce réseau de prostitution fonctionnant sur son île depuis plusieurs mois. Les réponses fournies par Jean-Claude Pioche ont, semble-t-il, convaincu les enquêteurs puisqu'à ce stade de l'enquête, aucune charge n'a été retenue contre lui.
Eric Stimfling de Guadeloupe La Première. À partir de demain, 1er octobre, pour voyager entre la Guadeloupe et la Martinique par avion ou par bateau, il faudra désormais en justifier la raison. De nouvelles mesures de restriction ont été prises par les préfets des deux départements des Antilles pour freiner la circulation du coronavirus. Les précisions de Georges Salonne, le directeur de cabinet du préfet de Martinique. Il est au micro Martinique La Première de Jean-Baptiste Anatole.
Le fait de se rassembler à plus de 30 personnes devient un événement festif dès lors qu'il y a de la boisson, qu'il y a de la nourriture ou que ça peut se transformer en salle de danse. La Martinique et les îles du Nord, Saint-Martin, sont également en zone d'alerte. Donc cela a amené les préfets de Guadeloupe et de Martinique en concertation à prendre des mesures qui seront applicables à compter de jeudi, qui vont interdire tous les déplacements aériens entre la Martinique et de la Guadeloupe, sauf motif impérieux. La desserte maritime est également concernée par cette réglementation. C'est l'ensemble des flux aériens et maritimes qui ont lieu entre la Guadeloupe et la Martinique.
Et avant de vous quitter, Anne, cette bonne nouvelle pour la rappeuse martiniquaise Meryl. Elle va représenter la France lors de la cérémonie des BET Hip Hop Awards. La chaîne américaine a révélé hier les nominés 2020 de cette cérémonie qui récompense les artistes de différents pays. Meryl a été nominée dans la catégorie meilleur artiste international de rap. La cérémonie est prévue pour le 27 octobre prochain. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée. Merci à vous, Tiziana Marone. Un documentaire à voir, Billy, sur Billie Holiday, reposant sur des témoignages audio recueillis dans les années 70 par une journaliste décédée mystérieusement pendant qu'elle menait son enquête. Contrairement à l'image habituelle d'une Billie Holiday terrassée par la drogue et brutalisée par les hommes, ce film montre une femme très forte, très décidée, et si elle était victime de quelque chose, d'une société raciste et patriarcale. Le récit de Sophie Torlotte.
C'était l'une des grandes voix du XXe siècle. Elle en jouait comme d'un instrument lors de concerts intimistes. Mais ce don n'a pas préservé Billie Holiday d'un destin tragique. C'est ainsi que l'on a coutume de résumer la vie de la chanteuse, née Eleanora Fagan en 1915, dans une famille noire misérable de Philadelphie. Le chant lui permet d'échapper à la prostitution et grâce à son talent, elle se produit avec les plus grands jazzmen de son temps, Count Basie, Artie Shaw, Dizzy Gillespie ou Louis Armstrong. Mais Lady Day collectionne les amants et maris violents, boit, se drogue et meurt de ses excès en 1959 à l'âge de 44 ans. I'd like to write something that is real, you know, really as she is. Voilà la version connue de la vie de Billie Holiday. Le documentariste britannique James Erskine a retrouvé des documents rares, des interviews réalisées dans les années 70 par une journaliste américaine avec des proches de la chanteuse. Près de 200 heures de témoignages de Charles Mingus, Tony Bennett, Count Basie, des avocats et même les agents du FBI qui l'avaient arrêté pour consommation de drogue. James Erskine utilise ces bandes inédites pour dresser un portrait différent de la diva du jazz.
Les gens qui délivrent le label de victime sont en général ceux qui ont le pouvoir. Billie, qui était une femme noire, originaire d'un milieu très défavorisé, une fille illégitime, n'a pas pu échapper à cette étiquette de victime qu'on lui a accolée. On parle de Billie maintenant, 61 ans après sa mort, mais c'était une battante, elle s'est battue toute sa vie et elle a toujours chanté la même chanson. Même quand elle chantait l'amour, c'était « Tu peux m'avoir, tu peux m'utiliser, mais tu ne me possèdes pas ».
Le documentaire montre que la chanteuse a dérangé les puritains et le pouvoir blanc de l'époque.
Elle chantait la vérité et elle en a payé le prix. Quand elle interprète « Now or Never », elle parle de sexe, ce qu'à l'époque personne ne faisait. Elle parle de liaisons violentes, tout en sachant qu'elle risquait de subir les coups de son amant le soir même. Et elle dénonce le racisme aux États-Unis, s'exposant ainsi à des représailles. Dans le milieu du jazz, tout le monde touchait à la drogue. Et pourtant, on n'a pas mis en prison les grands musiciens. Billie, elle, est allée en prison un an. C'était une cible facile pour les gens mal intentionnés.
Evil men.
Bear strange fruit.
Jamais résignée, Billie Holiday impose chaque soir cette chanson protestataire, Strange Fruit, dans laquelle elle compare les victimes noires des lynchages dans les États du sud des États-Unis à de drôles de fruits ensanglantant les arbres.
C'était la première militante antiraciste. Maintenant, les gens ont coutume de lier la chanson Strange Fruit au mouvement des droits civiques. Mais en fait, cette chanson existe grâce à Billie Holiday et elle l'a chantée 20 ans avant ce mouvement. Tous les soirs, elle l'interprétait sur scène devant un public blanc. C'était une battante. Elle a obéi à sa conscience.
Dans ce documentaire, utilisant des clichés et vidéos colorisées, James Erskine rend justice à la diva jazz, mais aussi à la journaliste Linda Kuhl, morte mystérieusement en 1978, alors qu'elle menait l'enquête sur Lady Day.
Voilà. Voilà, Billy, documentaire de James Erskine qui sort aujourd'hui dans les salles. Merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince. D'ici là, portez-vous bien, très bonne journée à tous.